Voilà un programme de campagne présidentielle à faire pâlir un Philippe Poutou. Tout le monde payait pareil, ceux qui travaillent beaucoup et ceux qui travaillent presque rien. On est loin de l'adage politique qu'on a entendu il y a quelques années. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais quel est donc ce royaume qui fait complètement dérailler toutes nos conceptions, même les plus égalitaires? Cette parabole qui compare le royaume des cieux à un maître de la vigne, elle suit une intention bien précise. Et je crois que son intention bien précise, c'est de nous faire dérailler, nous les lecteurs. Au-delà de cette histoire de traitement salarial injuste, elle nous présente le visage d'un Dieu qui est profondément dérangeant. Dérangeant non seulement pour ceux qui ne le connaissent pas, mais peut-être aussi pour ceux qui pensent bien le connaître. Cette parabole présente le visage d'un Dieu qui désire, qui nous désire. Pas seulement d'un Dieu qui attend quelque chose de nous, ou qui nous attend au tournant, mais un Dieu qui espère en nous. Et nous allons prendre le temps de réfléchir à ce désir de Dieu. Reprenons rapidement les éléments de la parabole. C'est l'histoire d'un maître de maison, viticulteur, qui sort de grand matin. Le seigneur de la vigne a besoin de travailleurs journaliers. C'est comme ça qu'on travaille à la vigne. Et en Orient encore aujourd'hui, il y a des endroits où on est embauché à la journée. On est embauché le matin et le soir, on touche son salaire. Une pièce d'argent, c'est le salaire normal, une journée de travail pour nourrir sa famille. Bref, une histoire tout ce qu'il y a de plus ordinaire, jusque-là. Et voilà que cette histoire banale commence à déraper un peu, à sortir des usages, des clous. Le maître sort à nouveau à 9h. Pourquoi ? En Orient, on embauche les ouvriers tôt le matin, à une heure précise, il n'y a pas qu'en Orient d'ailleurs, et en un lieu précis. Bon allez, 9h passe encore, il a peut-être manqué main-d'œuvre au dernier moment. Bon. Mais il sort à midi, à nouveau, et on n'embauche pas au milieu de la journée. Et il ressort encore à 15h. Et il ressort encore à 17h, c'est la nuit tombante. Et là, en termes de gestion d'entreprise, moi j'y connais rien, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais ces bizarreries sont peu de choses en comparaison de ce qui va se passer le soir, au moment de la paye. C'est là que les choses vont complètement dérailler. Observons de près ce qui se passe. Le maître de la vigne paye ses ouvriers en suivant une méthode précise. Les ouvriers qui ont le moins travaillé sont payés les premiers. Les travailleurs de la première heure sont payés à la fin. Et aucune explication n'est donnée à cette méthode. Deuxième particularité, les ouvriers touchent la même paye, une pièce d'argent, un denier, peu importe le nombre passé, le nombre d'heures passées au travail. Et cette égalité salariale soulève immédiatement un mouvement syndical dur. Nous avons trimé toute la journée, tu nous payes comme les derniers venus. Et le seigneur de la vigne ne donnera aucune explication à cette décision. Pas un mot. Mais ce qui est spectaculaire dans cette histoire, c'est que l'égalité de salaire est interprétée comme une inégalité, une injustice de traitement. Comme s'il n'y avait pas de rapport entre le travail fourni et la paye. Vous vous rendez compte ? On peut se rendre compte facilement des conséquences sociales et économiques que pourrait avoir ce système de rémunération généralisé à notre société. Ce serait l'émeute assurée. Et même les gilets jaunes, à côté, ce serait de la gnognotte. Et même pour l'exploitation de la vigne de ce patron viticulteur, il y a des enjeux incroyables. Parce que vous pouvez vous amuser à payer tout le monde pareil une fois, mais le lendemain, quand il faut aller embaucher, à la première heure du jour, il est probable que l'on ne se bouscule pas au portillon. En termes de gestion d'entreprise, c'est catastrophique, c'est suicidaire. Cela dit, nous, les lecteurs de la parabole, nous avons un avantage sur les personnages de la parabole. Nous savons que ce récit est une parabole, c'est-à-dire qu'elle nous parle d'autre chose que de vignes et d'ouvriers et de patrons. Elle nous parle de quoi ? C'est dit au début. Elle nous parle du royaume des cieux. Cette réalité, le royaume des cieux, dans l'histoire de l'Église, a alimenté beaucoup l'imaginaire. Vous vous êtes peut-être vous-même représenté les choses à votre façon. On pourrait même faire un sondage ce matin dans l'Assemblée et on constaterait très probablement que nos représentations de l'au-delà sont en grande part conditionné par ce que nous vivons maintenant, ici-bas, nos références terrestres. Certains répondraient que là-haut, nous allons récolter ce que nous avons semé ici-bas, qu'il y a une juste rétribution. D'autres, à l'inverse, affirmeront que le royaume va nous offrir tout ce que nous n'avons pas pu obtenir ici-bas. Le royaume de Dieu comme une sorte de l'eau de compensation, un peu, de la vie terrestre. Vous souffrez, en particulier pour les pauvres, les exclus. Vous souffrez aujourd'hui, eh bien, soyez patients, ça ira mieux dans la vie d'après. Mais ces représentations du royaume sont toutes construites à partir de projections de ce que nous vivons ici-bas. Et c'est d'ailleurs exactement ce que font les ouvriers de la première heure dans la file d'attente en voyant les derniers arrivés rémunérés autant qu'eux. Alors ils argumentent, ils défendent à juste titre leur vision des choses, leur sens de l'égalité, leur système de valeurs, quoi. Et ça ne changera rien à la décision du maître. Nous sommes comme ces ouvriers. Nous pensons que les choses doivent nécessairement être conformes à nos attentes, parce que c'est juste, ou parce que c'est bien, ou parce qu'on a des versets bibliques pour le dire. On peut imaginer le royaume de Dieu que l'on veut, en quelque sorte. On sera à coup sûr à côté de la plaque. Parce que entre nos représentations et le monde qui vient, il n'y a pas de continuité. Il y a un grand déraillement qui est annoncé. C'est ce que nous dit cette parabole. À toutes nos représentations du royaume de Dieu, de la justice, le maître oppose une seule phrase. Laquelle ? Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je désire ? Cette phrase dit que le royaume des cieux ne sera pas le fruit de nos attentes, même les plus légitimes. Il sera conforme non pas à nos désirs, mais au seul désir de Dieu. Et cela veut dire que Dieu désire. On parle beaucoup de la volonté de Dieu, mais on parle beaucoup moins du désir de Dieu. Et le verbe grec qui est employé ici veut dire autant vouloir que désirer. C'est très intéressant. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu désire ? Ça veut dire, tel que je le perçois, que Dieu n'est pas un Dieu impassible, immobile, lointain et finalement assez inquiétant. Dieu est un Dieu qui nous désire. Mais là, je voudrais faire une petite parenthèse, parce que quand on parle de désir, c'est à nouveau notre référentiel personnel qui vient donner la définition. Il faut barrer peut-être une fausse piste. Je dirais que le désir, ce n'est pas le plaisir. Le plaisir, ça tue le désir. Parce qu'une fois que vous avez consommé, le désir est tué. Au contraire, le désir, c'est une tension. C'est un élan qui met en mouvement. Il ne faut pas confondre non plus, c'est la deuxième petite point d'attention, il ne faut pas confondre non plus le désir avec le besoin. Souvent, on confond tout ça. Je ne parle pas des besoins vitaux comme boire et manger. Je pense en particulier à ces besoins de notre que notre imaginaire nous impose comme des nécessités vitales. Sans se rendre compte que notre imaginaire ne fait qu'obéir à des campagnes publicitaires. Ce n'est pas ça le désir. Le désir, c'est autre chose. C'est une attente, une espérance, une attirance que rien ne peut apaiser, ni le plaisir, ni l'assouvissement des besoins. Le désir, c'est ce qui nous entraîne toujours plus loin, ce qui ne se laisse ni dominer, ni endormir. C'est une puissance de vie formidable, le désir, indomptable. Mais vous savez, j'ai une image du désir. Alors là, il faudrait que les pédopsychiatres, je parle sous réserve de leur point de vue, mais je pense, j'ai en tête l'image du bébé qui tète sa mère. Au bout d'un moment, quand c'est terminé, il est plein, rassasié. Et qu'est-ce qu'il fait le bébé ? Il continue à téter dans le vide. Vous l'avez jamais vu ça ? Continue. La tétée est finie. C'est parce qu'il a faim. Il a faim d'autre chose. Il est déjà tendu vers l'après, vers la suite. C'est ça le désir finalement. C'est le révélateur d'un manque. C'est pas d'un manque d'avoir, hein. Vous entendez bien que c'est un manque d'être qui me pousse à chercher l'autre. Le plaisir, ça remplit, et je n'ai rien contre le plaisir, hein. Mais le désir, ça creuse l'attente. Ça tient éveillé. Les journaliers de la parabole sont venus travailler parce qu'ils ont besoin d'un salaire. Mais ce besoin vital, normal, va devenir, à la fin du récit, une espèce d'envie frustrée, une revendication, une colère. Pourquoi ? Parce qu'on se met à comparer les traitements. C'est là que tout déraille. Ils se mettent à maugréer. Maugréer, c'est... on ne sait pas ce qui est dit. Hein. D'ailleurs, le mot maugréer, c'est maugréer. Le seigneur de la vigne, lui, au contraire, parle. Il affirme son désir. Il parle haut et clair. « Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je désire ?» Le maître ne maugrée pas. Il parle de manière articulée, claire. Il commence par dire « Mon ami ». Mais surtout, pour moi, ça c'est ce qui me touche le plus dans ce récit. Il manifeste son désir à toutes les heures de la journée, en sortant. Si l'on peut passer justement la diapo pour montrer les verbes là qui sont en jaune, voilà, vous voyez, il sort, c'est quatre fois le même verbe, il sort, à 9h, à midi, à 15h, à 17h. Que cherche-t-il vraiment? On pourrait penser que c'est de la main-d'œuvre. Des ouvriers du matin, les ouvriers du matin, en fait, sont embauchés pour ça. C'est un maître de la vigne. Il a bien calculé son coût à la première heure. Il y a tout ce qu'il faut. En fait, notre maître est mobilisé par autre chose, par son désir de rencontre de l'autre, de nous. Du matin au soir, inlassablement, il cherche, il appelle, il embarque à sa suite tous ceux qui acceptent de le suivre. Notre Dieu est un Dieu désirant. Dieu désire. Est-ce que nous pouvons entendre ça? Dieu désire. Il n'est ni indifférent, ni lointain, ni menaçant. Il est désirant. Désirant de notre présence avec lui. Lui, le Dieu éternel, le Tout-Puissant, révèle en Jésus son visage de Dieu désirant. Ce Dieu étonnant qui vient, qui sort, qui cherche, qui rencontre et qui embarque. Un Dieu qui est prêt à donner sa vie pour ça. Cette parabole est placée juste avant la dernière annonce de la mort et de la résurrection, de la passion, que nous allons pouvoir vivre et célébrer dans quelques semaines. En Christ, Dieu se révèle être un Dieu en manque de nous, au point de se rendre vulnérable. Vous savez, son quoi qu'il en coûte à lui, c'est la croix. Il ne nous désire pas pour ce que nous pourrions lui apporter, un bon culte, un dimanche matin, des prières toute la semaine, quelques belles œuvres. Non. Il nous désire pour rien, juste par amour. Alors qu'est-ce que ça peut changer, ça, ce désir de Dieu dans notre vie? Ben, ça nous dit que, et dans les temps qui sont les nôtres, je pense que c'est important de rappeler que nous ne sommes pas des objets. Nous ne sommes pas des chiffres sur des courbes statistiques, celle du chômage, celle de la réussite sociale, celle des malades du Covid ou du cancer, celle des Français de souche ou des pièces rapportées, celle des... Non, le désir de Dieu nous fait apparaître tous comme des sujets, des personnes uniques, connues par leur nom, recherchées, comme on cherche l'être aimé. Le désir de Dieu se porte vers tous les hommes, même et surtout ceux dont personne ne veut. Les inutiles, les sans-voix, les victimes de la guerre, les migrants, les désespérés, ceux qui n'ont plus de place ici-bas. Cette vie de femme et d'homme appelée, rencontrée, désirée, par Dieu, c'est ce que la Bible appelle le royaume des cieux. Cette vie commence tôt le matin et elle ne finit jamais. Elle nous dit que nous avons une valeur immense, que nous sommes désirés, attendus, recherchés, aimés. Ouvriers de la première heure, de la 11e heure, ou de la 24e heure. Venez, venez, il y a de la place dans ce royaume des cieux qui nous est offert en Jésus le Christ. Amen.